Les écrans suspendus.
Les écrans suspendus.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avons décidé avec une partie de l'équipe de Cinémascope de vous proposer une nouvelle chronique qui sera diffusée tous les mercredis à 12h10 et rediffusée à 17h05, c'est ça ? Et en fait, vous savez que tous les cinémas de France et même du monde mais sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Nous n'avons pas trop idée de la date de réouverture, mais nous avons envie, avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Cathy, bonjour à toutes et à tous.
Et Mathieu.
Et bonjour, bonjour à toutes Mathieu. Et à tous.
Bonjour, bonjour.
Voilà, et puis avec Sylvain à la technique, de vous présenter un certain nombre de films qui vont sortir à partir du 1er juillet. Pour l'instant, les dates de sortie de ces films sont maintenues. Et bien sûr, nous vous informerons s'il y avait des changements. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir un peu donner du sens à un retour, dans notre métier que nous aimons, la salle de cinéma, et vous proposer des films que nous avons envie de défendre et vous donner envie de revenir en salle dès que possible. Voilà. Donc, le premier film que nous avons choisi de vous présenter est le film de Matteo Garrone qui s'appelle Pinocchio et qui est prévu au 1er juillet. Donc Olivier, je crois que tu veux déjà nous présenter, dans un premier temps, l'œuvre de Collodi, c'est ça ?
Oui, Carlo Lorenzini, qui a fait comme pseudo Collodi, on va voir pourquoi. Donc évidemment, l'œuvre, les écrans suspendus commencent un petit peu comme des jardins suspendus, mais bon... On sait que cette œuvre est absolument monumentale et la question moi que je me posais c'était de voir pour quelle raison elle avait pu prendre cette place dans la culture européenne non seulement enfin, italienne européenne et même mondiale. Alors moi je crois que c'est en grande partie lié à la richesse et à la oui, la richesse et la complexité de la vie de Collodi. C'est quelqu'un qui, issu d'un milieu modeste, ses parents sont domestiques, son père est cuisinier, sa mère femme de chambre du marquis de Girolli à Florence. C'est donc il est de milieu modeste, citadin, Florence, mais en même temps, il est en contact avec la très très haute société, puisque le marquis de Girolli est le directeur d'une grande fabrique de céramique dont le frère de Collodi deviendra directeur plus tard. Très jeune, il est placé chez son oncle et sa tante à la campagne, non loin d'une commune donc qui s'appelle Collodi justement et qui va lui servir son pseudonyme. Donc après avoir connu la vie citadine florentine, il connaît la campagne. Ensuite il retourne sur Florence parce que son oncle est embauché à son tour à Florence. Il reçoit une excellente instruction chez les piaristes. Alors il faut savoir que les piaristes c'était un ordre du XVIIe siècle, c'est un ordre entièrement dédié à l'enseignement aux enfants pauvres. On voit déjà un peu la figure de Pinocchio qui apparaît. Ensuite Collodi participe à la révolution, à la guerre d'indépendance italienne contre l'Autriche. Il est plus qu'engagé, hein. Il combat véritablement. Il perd énormément de camarades dans ces combats. Et au moment de la création du royaume de Toscane et Sardaigne, il devient à la fois journaliste, critique d'art essentiellement, et aussi fonctionnaire, alors petit fonctionnaire, il travaille à la censure, et il est chargé de contrôler effectivement toute la production littéraire, en particulier théâtrale, ce qui lui donne une très très grande connaissance de la culture toscane. On va dire que on a affaire à un progressiste, parce que nationaliste à l'époque ne veut pas dire totalitaire, hein. Un nationaliste à l'époque c'est progressiste et c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup intéressé à l'éducation. On va dire que c'est toutefois un progressiste un petit peu désabusé. Et je pense que ce côté désabusé explique quand même la noirceur, la relative noirceur de l'histoire de Pinocchio. Alors ensuite, il est évidemment partisan et acteur de l'unité culturelle italienne. C'est l'italien de Toscane qui va être appelé plus ou moins à devenir l'italien standard. Et cette unité, il est aussi la fondée sur des traditions artistiques populaires, comme par exemple la Commedia dell'arte et Pinocchio, qui veut dire pignon en toscan, petit pignon, c'est-à-dire en fait petit crevard, est en fait au départ un personnage très inspiré de la Commedia dell'arte. Donc, cette œuvre, ben, il commence à la publier en 1881, je pense pas me tromper, dans un journal. C'est vraiment un écrit de commande. Hein. Il n'est pas plus enthousiaste que ça. Il qualifie les premiers épisodes de gaminerie. Hein. Et puis devant le succès remporté par les premiers épisodes, ben, il en fournit d'autres. Et puis ça aboutit en 1883 à un volume, hein, les aventures de Pinocchio que tout le monde connaît et qui obtient un succès universel absolument incroyable. En Italie, il y a dès le début du XXe siècle ce que les Italiens appellent les Pinocchiate, c'est-à-dire toutes les dérivées de l'œuvre de Collodi, que ce soit des envies illustrées, des choses comme ça. C'est vraiment un phénomène culturel. Au XXe siècle, Pinocchio, c'est le deuxième livre le plus vendu en Italie derrière la Divine Comédie de Dante, quand même. On est à 9 à 10 millions d'exemplaires tout de suite, hein. Le passage à l'image, ça se fait pratiquement immédiatement. Là, on voit venir hein, du côté de cinéma, puisque dès le premier volume de 1883, il y a un merveilleux illustrateur, Enrico Mazzanti. Là, évidemment, c'est pas radiophonique, mais les auditeurs peuvent aller voir Mazzanti, M-A-Z-Z-A-N-T-I, avec des très très belles illustrations de Pinocchio. Donc voilà, un Pinocchio, c'est ça. J'ai compté, moi, pas moins de 26 adaptations au cinéma et à la télévision. Personnellement, j'ai évidemment été marqué enfant, mais je crois que Mathieu va nous en parler. J'ai été marqué évidemment par la version Disney de 1940. Mais moi, j'avais été aussi particulièrement marqué par la version de Comanchini. 1972, c'est une série télévisée avec Nino Manfredi et Gina Lollobrigida, quand même, excusez du peu. C'est une série télévisée qui ensuite a été remontée en un film de 135 minutes en 75. Voilà ce que j'avais à dire pour tenter d'expliquer cette espèce de phénomène culturel que constitue encore Pinocchio. Voilà.
Très bien. Très bien. Merci, Olivier. Donc, Mathieu, tu vas nous parler peut-être, on va s'attarder un petit peu de la version de Walt Disney.
Oui.
Elle est effectivement très réussie.
Oui, c'est une œuvre qui est reconnue aujourd'hui comme chef-d'œuvre, non pas par l'histoire, mais également par l'animation. Certains animateurs Disney de l'époque, qui peuvent encore témoigner aujourd'hui, disent que c'est le chef-d'œuvre qui est indépassable en termes d'animation. Et après l'avoir revu très récemment en version restaurée, c'est vrai que c'est un petit bijou qui se regarde vraiment très bien encore aujourd'hui. C'est un film d'animation qui est sorti en 1940, donc il s'agit quand même du deuxième film d'animation, du long métrage d'animation de Walt Disney. Trois ans après Blanche-Neige et les Sept Nains. Aujourd'hui, on le reconnaît comme chef-d'œuvre, mais il faut savoir qu'il est sorti en 1940 et bien sûr, à cause de la Seconde Guerre mondiale, il a été privé d'une sortie mondiale. Donc, il a une sortie très éclipsée par la Seconde Guerre mondiale et donc le succès n'était pas au rendez-vous à cette époque-là. Il est devenu rentable avec le temps, avec les nombreuses ressorties au cinéma, entre autres, mais aussi VHS, DVD, qui ont fait que ce film a totalement été reconnu par le public et par les fans de Disney aujourd'hui. Donc Pinocchio, tout l'œuvre reconnue de Carlo Collodi, Walt Disney avait vraiment du matériel de base qui était incroyable et toute oui Olivier.
Non, je suis entièrement d'accord.
Oui, et du coup toute la question que je me suis posée pour un peu rentrer en profondeur dans ce film, c'est pourquoi Disney a fait les choix que l'on connaît pour cette adaptation. Pourquoi avoir fait les choix d'une adaptation qui va être beaucoup plus édulcorée en apparence, avec une histoire qui suit, en tout cas dans les grandes trames, l'histoire de Carlo Collodi, mais en y injectant justement une dose Disney. Et Disney qui était encore à faire ses preuves après le long métrage de Blanche-Neige. Alors bien sûr, ça parle de Pinocchio, c'est un pantin en bois sculpté par Gepetto, et celui-ci rêve d'avoir un vrai petit garçon. Et il va prier l'étoile du soir pour que son rêve se réalise, chose qui va être faite, et Pinocchio va alors devenir vivant. Et il va être accompagné de Jiminy Cricket, qui va être désigné par la fée comme sa conscience. Et c'est un point qui est vachement intéressant. Sans connaître l'œuvre initiale de Carlo Collodi, peut-être qu'Olivier va pouvoir nous éclairer, mais Jiminy Cricket a été désigné par la fée comme sa conscience. Et la question que je me posais, c'est est-ce que c'est le cas dans le récit d'origine? Est-ce que peut-être tu le sais, toi, Olivier?
Écoute, justement, j'ai pas souvenir qu'il y ait un Jiminy Cricket dans l'œuvre de Collodi, effectivement.
D'accord.
Il a pris la liberté de créer de nouveaux personnages, mais il en a étoffé d'autres et je crois que Jiminy fait partie de ceux qui ont été étoffés. Mais je pense qu'il existe dans l'original. Mais à vérifier. Mais Cléo, par exemple, le poisson rouge n'existe pas.
Par exemple. D'accord. Parce que justement, en faisant des petites recherches après avoir vu le film, j'ai remarqué qu'il y a eu plusieurs changements de direction artistique. Au début, le projet avait été lancé plutôt, je pense, dans la lignée du récit d'origine, du conte d'origine, avec un Pinocchio en bois brut, animé comme une marionnette, au mouvement simple, voire automatisé, un visage sans expression. Et sans conscience, c'est pour ça que je te posais cette question, Olivier, parce qu'au début, dans les studios de Disney, il était sans conscience et il faisait le mal en toute innocence. Chose que l'on retrouve dans le long métrage de Walt Disney, avec cette conscience improvisée à travers Jiminy Cricket. C'est ça qui est intéressant et voilà, si on pouvait le mettre en parallèle avec l'œuvre d'origine. Oui, Olivier.
Ouais, et ben écoute, tu m'ouvres des perspectives auxquelles je n'ai pas spécialement songé. Moi, il est évident que comme tu l'as dit, la version Disney est extrêmement édulcorée. L'histoire de Pinocchio, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler un roman d'initiation. À cause du côté désabusé de Collodi dont je parlais tout à l'heure, l'initiation, si tu veux, elle a une grande part de tragique, et ça, dans la mentalité plus américaine, etc., en plus, période de guerre, etc., je pense qu'effectivement, il a voulu un peu lisser cette affaire d'initiation pour rendre les événements, les des avatars, enfin, etc., c'est de dire de Pinocchio plus regardable, parce que c'est vrai que dans le livre lui-même que j'ai beaucoup pratiqué parce que je l'ai lu à mes enfants. Effectivement, quand on lit ça à ses gamins, on est trois hein, quand même, et parfois on a un petit peu du mal, on se demande quel effet ça va leur faire, surtout le soir comme ça avant d'aller se coucher, et en fait on s'aperçoit que ça a une vertu cathartique, comme dit Aristote, c'est-à-dire que ça la violence qui est présente dans le texte, la méchanceté hein, parfois de Pinocchio, de d'autres personnages, etc. Bah, finalement, au lieu d'effrayer les enfants, elle les initie et ça leur permet de circonscrire un peu la méchanceté et la souffrance que de toute façon dans leur vie d'enfant ils vivent. Hein, voilà.
Et oui. Merci Olivier. Justement, je pense que c'est pour ça que Walt Disney du coup a exigé un changement de direction artistique, surtout du récit. Et le projet est reparti complètement de zéro. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'était un des films pour l'époque un des plus chers de Walt Disney, qui a même dépassé Blanche-Neige et Sept Nains, qui l'avait mis presque au bord du gouffre. Donc voilà, c'était un sacré enjeu. Et donc le film d'animation que l'on connaît aujourd'hui est né, c'est-à-dire le Pinocchio avec les gants blancs de Mickey quand même, pour faire un petit écho à tous ceux qui connaissaient déjà Mickey, et pour que ce soit plus familier, les formes arrondies du bois, l'aspect cartoon du visage de Pinocchio, et surtout le côté très humain de Jiminy Cricket, qui est à l'origine un criquet, mais qui est vachement humanisé au possible dans le dessin animé. Et c'est un film donc qui a marqué les studios Walt Disney et le public, parce que déjà pour l'époque, les dessins étaient détaillés, plein de vie, mais ça on le connaissait déjà des studios Walt Disney. Mais c'est aussi le début de la caméra multiplane, une caméra que l'on peut voir d'ailleurs dans les studios Walt Disney, au parc de Walt Disney Studios à Paris. C'est une caméra où il y a plusieurs plans en verre et où on peut faire vraiment de la profondeur de champ dans l'animation et énormément de plans. Et du coup, ça rendait, aujourd'hui encore, c'est pour ça que j'ai commencé par là, ça rend ce film d'animation incroyablement riche en détails et en détails, vraiment comme un long métrage traditionnel. Et du coup, tradition Disney exige, le film est parcouru de plusieurs chansons qui n'existent pas, je pense, dans le conte d'origine, de plusieurs chansons à la manière d'une comédie musicale, et ça lui a valu deux Oscars, meilleure chanson et meilleure partition. Et Olivier, comme tu disais, donc ça reste quand même un récit sombre, même violent, et même oui. Si ce récit est édulcoré, moi j'ai le souvenir d'un Disney qui est beaucoup plus sombre que les autres par rapport aux futurs classiques qui sont sortis après. On a, en tout cas, en étant enfant, on a une impression d'étrange dans ce film. Une impression qui flotte tout au long du long métrage. Quand on est enfant, on a beaucoup de passages qui marquent par la cruauté des individus que Pinocchio rencontre, par l'aspect candide de Pinocchio. Et quand on est enfant, on se dit « mais quel monde cruel !» un peu, par le ton grave et sombre qui s'y dégage. Je pense notamment à la baleine Monstro qui a traumatisé plus d'un enfant, je pense. Voilà, tous ces moments font que c'est un Disney quand même à part, j'ai trouvé. Et cette limite floue entre le monde réel et le monde de l'étrange, du conte, du fantastique qui est quand même présent, fait que justement, je suis très curieux de voir comment Matteo Garrone a pu reprendre tout ça. Je ne sais pas s'il a plutôt puisé dans le matériel de base aussi du Disney, je pense qu'il a tellement influencé les consciences qu'il n'a pas pu y échapper, même inconsciemment, et je suis très curieux de voir cette œuvre, du coup.
Oui, tout à fait.
Voilà, oui. Alors après, c'est vrai que c'est très bien que ce soit Matteo Garrone qui ait réalisé cette nouvelle adaptation, donc d'une part parce que c'est un Italien et que je pense qu'il connaît très bien l'œuvre de Collodi. Et que une fois qu'il a eu travaillé sur un film qui s'appelle Tale of Tales, qui est plutôt sur de l'heroic fantasy, il a trouvé que en fait dans l'univers fantastique il pouvait peut-être trouver d'autres sources d'inspiration et d'exploitation en fait autour de l'histoire. Donc il s'est replongé dans l'œuvre de Collodi et dans Pinocchio et il s'est dit c'est là-dedans que je vais aller explorer un peu encore d'autres univers. Et Matteo Garrone, c'est quand même un réalisateur relativement éclectique. Sur sa filmographie, il a pu faire des choses très réalistes, proches du documentaire comme Gomorra. Il s'est essayé à la comédie italienne satirique avec réalité, donc avec Tale of Tales, l'Heroic Fantasy. Dogman, c'était plutôt un drame policier. Ce que je trouve intéressant dans le fait qu'il ait choisi d'adapter Pinocchio, c'est d'intéressant et de cohérent, je veux dire, c'est que c'est un peu à l'image de Gondry quand il adapte L'écume des jours ou de Tim Burton quand il adapte Alice au pays des merveilles, c'est presque un peu une évidence en fait. Rapport à ce que ces réalisateurs sont en capacité de faire et leur univers, on se dit que c'est logique que Gondry soit allé vers Boris Vian et vers cette œuvre et que Tim Burton allait savoir adapter Lewis Carroll. Alors, on peut critiquer le film quand même, surtout pour Burton, plus que peut-être Michel Gondry, mais en tout cas, en ce qui concerne Matteo Garrone, voilà, c'était peut-être une évidence qu'il adapte au cinéma le Pinocchio, qui pour moi va être une synthèse un peu du univers de Garrone. Il est dans une description assez réaliste de la misère humaine en fait avec un sens de la composition picturale et de l'imaginaire très très marqué et en filigrane donc une critique sociale des inégalités, donc chez lui ça fonctionne forcément par rapport à ce qu'il a fait avant et par rapport à ce que raconte l'œuvre de Collodi. C'est une œuvre qui n'abuse pas des effets spéciaux. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable au cinéma, qui est plutôt soigné et qui est, très, très valorisé par le travail du chef opérateur qui est danois, je crois, qui s'appelle Nicolas Bruel, qui avait travaillé également sur Dogman précédemment. Et ce qui est appréciable aussi, c'est l'interprétation de Roberto Benigni, qui est toujours très, souvent très, très exacerbé et qui là reste pondéré à la fois dans l'émotion et dans la fantaisie. Voilà, donc c'est un film qu'on. J'ai dit beaucoup, voilà, je crois. C'est un film qu'on a envie de défendre et qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui pour préciser. C'est un film qui a reçu le soutien du groupe Jeune Public de l'Association française des cinémas d'art et essais et qui est plutôt conseillé à partir de 8 ans.
Écoute, Cathy, rajouter des choses, peut-être. Non, parce que je trouve ton exposé vachement complet et surtout convaincant. Ça donne vraiment envie, et en particulier ce que tu dis sur. L'espèce d'évidence que ce réalisateur choisit cette œuvre comme pour Alice au Pays des Merveilles et je trouve qu'effectivement ça résonne assez juste dans ma tête et ça donne très envie d'aller voir le film.
Ouais, tant mieux. Il faut que les éditeurs aient envie aussi de le découvrir en salle. Nous l'espérons à partir du 1er juillet, mais dans tous les cas, si par malheur, le film est reporté. Enfin, il sortira bien sûr en salle et nous pourrons en profiter sur grand écran. Voilà, ben merci. La semaine prochaine, on va se tourner, si vous en êtes d'accord, vers Christopher Nolan.
Ah oui, super.
Voilà, sur un nouveau film que nous avons hâte aussi de découvrir qui s'appelle Tenet. Donc on vous en dira plus la semaine prochaine avec Olivier et Mathieu. Et Sylvain,
voilà.
Encore la technique. Merci et puis à la semaine prochaine alors.
Oui, et puis en attendant le bouclier d'économie.
Merci à tous. À la prochaine.
À bientôt.
Ciao. Ciao.